Bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec une proclamation de victoire.
Moscou qui déclare avoir conquis la ville de Mariupol. Une déclaration hâtive toutefois, car 2000 soldats ukrainiens y sont encore retranchés. Quelle est vraiment la situation sur place? Le maire de Mariupol s'est exprimé aujourd'hui. Nous serons en Ukraine dans un instant. Marine Le Pen dans la Somme, Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Les deux finalistes de la présidentielle sur le terrain pour faire le service après-vente de leur débat d'hier. Nous les entendrons tous les deux. À suivre aussi le programme controversé de la candidate du Rassemblement National sur le logement social, le groupe Orpea devant la justice, et puis des nouvelles de nos ancêtres, les Australopithèques. Leur accouchement était aussi très complexe, on le verra en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi, on regarde la chute de Mariupol ou pas, proclamée, donc vous l'avez dit, par les Russes. Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon pour la poursuite de la guerre? Jusqu'à quel point l'objectif du Donbass devient plus facile? Est-ce que l'armée ukrainienne, de plus en plus équipée en armes lourdes par l'Occident, peut tenir encore et combien de temps? Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on va voir ensemble où vous en êtes à 3 jours du vote. Vous, les indécis, les anxieux, les déçus, vous qui ne vouliez pas choisir, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, maintenant que la campagne touche à sa fin, qu'il n'y a pas d'idéal politique? Est-ce que vous avez pu résoudre votre équation? Comment vos idées, dans un sens ou dans l'autre, ont-elles mûri? 01 45 24 7000.
France Inter.
La ville de Mariupol, donc, est-elle ce soir sous contrôle russe?
C'est ce qu'affirme en tout cas le Kremlin depuis ce matin. Un succès vanté par Vladimir Poutine lui-même à la télévision russe, mais un contrôle jugé contestable par Joe Biden, le président américain, pour qui Poutine ne réussira jamais, dit-il, à occuper l'Ukraine. Il reste en effet dans la ville cette usine d'Azovstal où continuent de résister 2000 soldats ukrainiens. Le président russe a décidé de ne pas donner l'assaut, mais de les assiéger pour épargner, dit-il, la vie des soldats russes. Côté ukrainien, pas de confirmation ce soir de cette prise de guerre majeure. Les Ukrainiens qui demandent surtout à pouvoir évacuer les populations civiles. 3 bus ont pu partir de Mariupol aujourd'hui et sont arrivés 200 km plus loin, à Zaporijja. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Parmi ceux qui connaissent le mieux la situation sur place, il y a bien sûr le maire de Mariupol qui lui a quitté la ville, mais qui faisait cet après-midi une conférence de presse par visioconférence, Faustine.
Et Vadim Boychenko assure être informé de la situation depuis l'intérieur de Mariupol par des habitants qui refusent toujours de quitter les lieux, désormais quasiment entièrement aux mains de l'armée russe. Selon ses calculs, il reste sur place quelques 100 000 civils, un quart de la population de la ville avant la guerre, dont plusieurs centaines, entre 300 et 1 millier, dit-il, réfugiés dans cette usine Azovstal sur le port de Mariupol. Et c'est pour eux qu'il réclame de vrais couloirs humanitaires.
Hier, les Russes ont annoncé un grand nombre de bus et une grande évacuation qui serait lancée la veille de cette grande fête de Pâques. Ils ont proposé de nombreux bus, mais seulement 7 sont venus. Et de ces 7, seulement 4 sont arrivés à destination. Et dans ces 4 bus, seulement 80 habitants de Mariupol ont pu monter.
4 bus, dit donc le maire, mais 3 sont arrivés à Zaporijja. Et puis Vadim Bonchenko ne peut en apporter la preuve puisque Mariupol est bouclé, mais il assure aussi que les Russes sont en train de dissimuler leurs crimes.
Ils détruisent les traces et les preuves de leurs crimes de guerre. Ils cachent les corps, on le sait maintenant. Et on sait où ils les cachent.
Le maire évoque une fosse commune près du périphérique de la ville voisine de Manouche, derrière l'ancien cimetière. Une tranchée de 30 mètres de long où des camions russes ramènent des corps. Selon un dernier bilan des autorités ukrainiennes, 20 000 civils sont morts à Mariupol.
Faustine Calmel avec Jérémy Thuil en direct de la ville de Dnipro en Ukraine. L'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine va encore s'accroître. Nouvelle aide de 800 millions de dollars des États-Unis, des armes d'artillerie lourdes, des dizaines d'obusiers, 144 4000 munitions ainsi que des drones. L'Espagne, elle va livrer 200 tonnes de matériel militaire, le double de ce que Madrid a envoyé jusqu'ici. Et puis, selon l'Allemagne, des armes lourdes, dont des chars de combat, seront envoyés dans les prochains jours de la part de pays d'Europe de l'Est. En bref, encore à l'étranger, cet attentat sanglant en Afghanistan, à Mazar-i-Sharif, au nord du pays, une mosquée chiite prise pour cible par l'État islamique. L'explosion d'un colis piégé a fait 12 morts et près de 60 blessés.
Plus que 48 heures pour convaincre.
Le débat entre de deux tours à peine terminés, chaque candidat est remonté en selle aujourd'hui pour la dernière ligne droite. Emmanuel Macron et Marine Le Pen de retour sur le terrain, satisfaits l'un et l'autre de leurs prestations. Un débat de bonne tenue pour Marine Le Pen qui a choisi une fois de plus le confort, la région des Hauts-de-France qu'il a largement mise en tête au premier tour. Visite à Roy dans la Somme, suivie par Élodie Forêt.
Un verre de champagne dans sa loge, quelques heures de sommeil et Marine Le Pen de nouveau en campagne. Rendez-vous ce midi avec des routiers autour d'un jambon braisé pommes de terre pour parler du prix de l'essence.
C'est le dernier clou dans le cercueil. Quoi.
Tout à fait.
Quand surplombant la nuée de caméras...
Vous allez me faire monter dans le camion ?
La candidate s'échappe dans la cabine d'un camion jaune vif et salue de la main les militants venus la féliciter du débat, comme Johanna.
Elle avait une image posée, réfléchie. Elle avait la tête sur les épaules. Elle ne s'énervait pas. Elle savait comment lui répondre sans forcément s'énerver.
Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé comment ?
Je l'ai trouvé arrogant et j'ai trouvé qu'il essayait surtout de la rabaisser.
L'arrogance d'Emmanuel Macron dénoncée aussi par la candidate.
J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même. Très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis 5 ans.
Aucun regret donc, quand je suis dans l'invective, je le suis trop, quand je le suis moins, je ne le suis pas assez, ironise Marine Le Pen.
Élodie Forêt dans la Somme, en face, Emmanuel Macron lui rejette les attaques sur la forme. Ce débat, dit-il, a été respectueux et il se concentre maintenant sur les potentielles réserves de voix à gauche. Déplacement aujourd'hui à Saint-Denis, dans un département très abstentionniste et qui a voté à près de 50% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Le président candidat qui, dans un dernier mouvement, tente de gagner les quartiers, grand absent depuis le début de la campagne.
Le débat ambiant a été insupportable pour beaucoup d'habitants des quartiers. Ils ont eu le sentiment d'être relégués. Quand vous passez des mois à ne pas être au cœur des ambitions du pays, mais à être désigné comme le problème par toute une partie des candidats, ça peut vous taper sur le système, je le conçois. Et c'est aussi pour ça qu'être là pour moi, c'est de dire vous êtes une partie de la solution. Et moi je suis fier de nos quartiers, de notre jeunesse. Parce que je sais ce qu'elle nous apporte et le potentiel qu'elle a.
Emmanuel Macron au micro de Simon Le Baron. Il sera demain à Figeac, dans le Lot. Le débat d'hier soir fut le débat le moins regardé depuis 1974. La pire audience historique pour un débat d'entre-deux-tours. 15 600 000 spectateurs pour ce face-à-face donc entre Macron et Le Pen. Beaucoup de téléspectateurs se sont donc abstenus, Christophe Vincent.
J'ai complètement zappé.
Sans regret ?
Non.
Dans le 5e arrondissement, fief de la Macronie, on a aussi boudé le débat.
Ça m'a fait penser à un remake d'il y a 5 ans. De toute façon, moi je sais déjà pour qui je vais voter. Donc je vote pour Emmanuel Macron, mais c'est par défaut.
Aucun intérêt. La polémique et la démagogie, ça suffit maintenant. On arrête, vous dire la vérité, c'est tout.
Vous voterez au deuxième ?
Bien sûr.
Je regarde pas, ça sert à rien. J'ai quand même écouté les commentaires ce matin. Ça confirme bien ce que je pensais. J'ai regardé la 3 sur la Franche-Comté. Ça m'a beaucoup plus apaisé. J'ai voté écolo, mais dimanche, je n'irai pas.
Dans le quartier populaire de la Duchère, Jean-Luc Mélenchon a obtenu jusqu'à 57% des voix. Là encore, certains ont jeté un œil au débat, d'autres l'ont ignoré.
Le premier quart d'heure, j'ai su qu'elle n'a pas changé. Ça sert à rien. Il n'y a rien de neuf, mais il va passer haut la main.
Ça ne me dit ça rien du tout. Il n'y a rien de franc. On les mettrait sur un ring, on verrait vraiment. Celui qui a des tripes, quoi.
Tout augmente sauf nos salaires. Ça va servir à quoi de les regarder ou ça va servir à quoi d'aller voter ou autre. Il n'y en a aucun qui m'attire.
Malik y avait pensé, mais...
Je savais que c'était hier soir, mais il y avait le foot, du coup j'ai pas regardé le débat.
Et l'OL a perdu. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et revenons maintenant sur le fond des programmes et sur un thème qui n'a été qu'effleuré hier pendant le débat, le thème du logement en bonne place dans le programme de Marine Le Pen, qui souhaite appliquer le principe de la préférence nationale à l'attribution des places en HLM. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Plusieurs organisations s'inquiètent des conséquences d'une telle décision. Alors Marine Le Pen entend-elle expulser des centaines de milliers de locataires étrangers du parc social ?
Eh bien la question a en tout cas été posée, car au-delà du principe même de priorité nationale dans les attributions HLM, mesure pour leur inconstitutionnelle et qui inquiète le monde associatif, il y a cette phrase du programme RN qui interroge et qui fait couler de l'encre. Cette priorité, je cite, permettra de libérer rapidement 620 000 logements sociaux occupés par des étrangers. Sous-entendu, la mesure va créer à court terme un appel d'air. Un étonnant scénario qui n'est en réalité absolument pas imaginable, à moins d'expulser donc Manu Militaire
Itari, des centaines de milliers de locataires alertent. Dans une récente note, le think tank de gauche Terra Nova, car la mobilité dans le parc social est extrêmement faible et seuls 11% des attributions concernent potentiellement des ménages dont l'un des membres n'a pas la nationalité française. Ce qui veut dire que soit la promesse est mensongère, soit le plan n'est pas celui qui est affiché. Intox total, répond la candidate depuis quelques jours, comme son entourage en colère que nous avons joint cet après-midi. Priorité ne veut dire ni exclusion ni expulsion, mais la rédaction, oui, du programme est effectivement maladroite, avoue-t-on. Tant mieux, mais n'oublions pas que les mots ont un sens, conclut aujourd'hui l'experte à l'origine de cette note, surtout dans un programme présidentiel.
Décryptage de Claire Chaudière du service Économie de France Inter. C'est le premier procès Orpea depuis la parution du livre scandale Les Fossoyeurs. Le groupe d'EHPAD privé a signé au tribunal de Nanterre pour une histoire qui remonte à janvier 2017. Le fils d'une ancienne pensionnaire d'un EHPAD de Bagneux dans les Hauts-de-Seine attaque Orpea pour enfin comprendre pourquoi sa mère de 84 ans a été hospitalisée en urgence avec de multiples fractures aux jambes qu'une simple chute ne pouvait expliquer. Emmanuel Leclerc a assisté à l'audience.
C'était une audience au civil, sans procureur, sans qu'il y ait eu d'enquête de police ou de gendarmerie. Le temps est également compté, l'agenda est chargé, maugré la présidente qui demande aux avocats des deux parties d'abréger leur plaidoirie, 30 minutes chacun. L'accusation est donc lancée par l'avocat du fils de la défunte pour qui on a traité la mère de son client bien pire qu'un chien dans un chenil. Accusation basée sur le rapport de l'expert médecin mandaté par le tribunal de Nanterre qui explique l'origine des fractures multiples constatées à l'hôpital par une chute, mais sans se prononcer sur qui a provoqué cette chute. Une simple hypothèse et pas de preuve, selon l'avocat du groupe Orpea, maître Alexandre Malbaza.
Il n'y a pas de maltraitance du tout dans ce dossier-là. On riait dans l'audience quand je disais qu'il y a des fractures qui sont silencieuses et non douloureuses. Si ça existe, quand vous avez une ostéoporose généralisée, c'est faisable. Voilà, c'est une hypothèse scientifique médicale que le médecin que nous avons mandaté soutient. Voilà.
La famille de Toussainte Dermarcarian est restée perplexe de longues minutes à la sortie du tribunal, rappelant que la défunte ne souffrait pas d'ostéoporose grave, pas de crise d'épilepsie non plus la nuit. Elle maintient qu'il s'est forcément passé quelque chose de grave au sein de l'EHPAD de Bagneux en ce mois de janvier 2017. Elle se réserve la possibilité maintenant de porter plainte au pénal.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin prochain.
Et on termine, Sébastien, avec un petit retour dans le temps. Comment accouchait-on il y a 3 millions d'années?
Alors, on pensait que la complexité de l'accouchement était propre à l'espèce humaine moderne, mais une étude internationale nous apprend que les Australopithèques, c'est-à-dire Lucie et ses congénères, bien eux aussi faisaient face à des naissances délicates, Hélène Chevalier.
Oui, les chercheurs du laboratoire d'anthropologie bioculturelle d'Aix-Marseille ont en fait récupéré dans des bases de données scientifiques des reconstructions de bassins d'Australopithèques issus de fossiles. Ils ont simulé via un logiciel le passage de la tête du bébé dans ce bassin. Alors chez les grands singes et les chimpanzés, l'accouchement est facilité par la forme de ce dernier, mais les modélisations de cette étude montrent que chez Australopithèque, une rotation du crâne est nécessaire dans le canal de l'accouchement, comme pour l'homme moderne. Par ailleurs, le ratio entre la taille de la tête du bébé et celle de l'adulte serait également proche de celui des humains, explique Pierre Frémondière, anthropologue, sage-femme et auteur principal de cette étude.
Chez l'homme moderne, ce ratio taille du crâne néonatal, taille du crâne adulte est à peu près à 28%. Chez le primate non humain, vous l'avez à 44%. Et là, en fait, on est entre 28 et 32%, donc on est vraiment plus sur un modèle humain.
Et la conséquence de ce faible ratio, c'est que comme pour l'homme, et contrairement aux primates, le bébé australopithèque était, selon ses chercheurs, prématuré et donc très vulnérable.
Donner naissance à un nouveau-né avec un ratio si faible, en fait, implique que, après la prise en charge du nouveau-né, est difficile. Elle implique un investissement parental qui est important. Et du coup, très probablement, donc, le groupe d'Australopithèque a pu intervenir pour prendre en charge également le nouveau-né à ce moment-là.
Et cette prise en charge, cette assistance auprès du groupe du bébé après l'accouchement implique une socialisation, ce qui, selon les chercheurs, aurait pu contribuer à développer des fonctions cognitives supérieures.
Voilà, Hélène Chevalier, toujours plus proche de nos ancêtres australopithèques.
Merci beaucoup, Sébastien Logeni. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde, vous nous raconterez une histoire navrante de paquets de chips, notamment tout à l'heure. Notre invité ce soir commentera avec nous la chute de Mariupol proclamée par les Russes et ses conséquences, en tout cas, sur le reste de la guerre. Et puis, en deuxième heure, dans le téléphone seul, la question qu'on a envie de vous poser, c'est bon alors vous en êtes où maintenant, vous les déçus, les indécis, les assommés du premier tour, il s'est passé 15 jours, vous avez vu évoluer les candidats, vous les avez vus débattre, alors le comment, le choix a-t-il mûri dans vos têtes? Par quelles affres êtes-vous passé? Ça revient à poser une vraie question essentielle. À quoi il sert mon vote? Est-ce que je préserve la démocratie? Est-ce que je préserve une certaine image de moi quand je choisis? À vos questions pour nos invités au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant tout ça.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et le dit Calac, bonsoir. Nuages et éclaircies, voilà pour le programme de demain.
Oui, bonsoir à tous. En effet, des côtes de la Manche vers la région parisienne, le centre-val de Loire, jusqu'au nord-est, le soleil s'imposera rapidement le matin. En revanche, l'après-midi, on aura quelques passages nuageux qui viendront taquiner le soleil. Plus au sud, de belles éclaircies. Encore pas mal de nuages le matin vers les plaines du sud-ouest et la région PACA. L'après-midi, ça deviendra instable, avec quelques averses orageuses du sud de la Bretagne et de Poitou-Charentes vers le Massif central, les Alpes et le Jura. Quelques averses aussi pour les Pyrénées.
Et ce sera encore perturbé en Corse.
Oui, encore de bonnes pluies le matin et puis seulement quelques averses pour l'après-midi. Les températures, on partira de 4 degrés à Mulhouse, Nevers et Tarbes le matin, 8 à Cherbourg, Poitiers et Lyon, 11 à Paris, 12 à Nice. Et puis l'après-midi, 14 à 18 degrés près de la Manche avec un petit vent de nord-est et 17 à 22 ailleurs.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.